RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09, c'est le week-end des experts sur RMC qui revient. Très bon dimanche à vous toutes et à vous tous et bon réveil. Merci d'être là. On salue aussi tous ceux qui travaillent ce dimanche matin, qui sont nombreux et qui nous sont fidèles. Voilà, un petit coucou à vous. Je vous rappelle que Laetitia Barlerin m'accompagne jusqu'à 8h pour notre rendez-vous animaux. Hein. Bien sûr, notre veto qui est là chaque dimanche 6-8. Et puis juste après, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. 2 heures dédiées à l'auto. Notre expert auto répondra à vos questions. Doit-on assurer une voiture qui ne roule pas? Ça sera notre bon plan auto. On fera un zoom aussi sur le Tour Auto Optique 2000 qui se déroulera du 20 au 25 avril prochain. Et puis en deuxième partie, on fera un point sur l'éthanol. Quels sont les avantages aujourd'hui de rouler à l'éthanol? Vous savez que de plus en plus de véhicules sont compatibles. C'est ce qu'on appelle les véhicules flex fuel. À quoi ça sert? Est-ce que ça pollue moins? Est-ce que c'est moins cher? Y a-t-il beaucoup de pompes compatibles justement à éthanol? On fera le point tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau, donc entre 8h et 10h. Mais d'ici là, deuxième partie de ce rendez-vous animaux avec Laetitia. Et on va parler tout simplement d'éducation canine. Il y a de nouvelles tendances. On peut éduquer son chien de manière différente.
Eh oui, et on n'est pas, enfin, ce n'est plus la tendance. Je domine, je plie mon chien, il doit obéir au doigt et à l'œil. D'ailleurs, quand je regarde.
Le fouet, c'est terminé, quoi.
Voilà, le martinet, c'est terminé.
Le martinet, Laetitia, mais ça n'existe plus, enfin. Ah vous bon avez un martinet, vous?
Ben non, mais.
Ah bon, d'accord.
Oui, mais c'est vrai que c'est non, fini aussi pour les enfants, donc c'est fini pour les chiens.
Ah bon?
En tout cas, quand je regarde les résultats des votes, vous savez, nous avons notre question RMC Wamiz. Comment définiriez-vous votre relation avec votre chien? Sur Wamiz, vous êtes 57% à dire complice.
Oh là là.
Et non pas je domine. Alors j'aime bien, il y a 2% des internautes qui disent mon chien me domine. Ouais, alors on va voir justement si votre chien peut vous dominer. Et nous sommes pour commencer avec le docteur Antoine Bouvresse qui est vétérinaire comportementaliste à Rueil-Malmaison et également, je tiens à le citer, vétérinaire au refuge Ava. Aide aux vieux animaux, voilà. Antoine, bonjour, bienvenue.
Bonjour
Antoine.
Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Alors, pendant longtemps, c'est vrai qu'on a assimilé éducation et domptage. Hein. On devait contraindre son animal, le soumettre, être son dominant, voilà. Et puis c'est vrai que, comme on vient de le dire, la nouvelle vague d'éducateurs prône des méthodes dites douces, hein, d'éducation, que vous validez aussi, je suppose. Alors, il y a aussi des préceptes sur lesquels on revient aussi aujourd'hui, comme par exemple, comparer le comportement du chien et le comportement du loup. Alors, qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, c'est vrai que depuis toujours, c'est l'éducation canine, le comportement canin. On va très facilement prendre des références chez le loup.
La meute de loup.
La fameuse meute de loup qui a été étudiée il y a 30 ou 40 ans. Alors, et là, c'est plus trop d'actualité aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est construit un modèle de chien, parce que c'est vraiment la modélisation. On va y revenir un petit peu après. Mmh. Et en fait, on s'est basé sur des études qui ont été faites il y a 30 ans. Qui sont des études scientifiques rigoureuses, mais sur lesquelles on est en train de revenir, tout simplement parce qu'on a étudié une meute. Alors, c'était des meutes de loups qui étaient complètement enfermées, qui étaient en milieu clos.
En captivité.
Voilà. Et ça, pour les éthologues, c'est un biais énorme, parce que étudier la société, la socialisation et la façon dont les individus interagissent alors qu'ils sont contraints, enfermés ensemble, c'est pas logique, et on a des résultats qui ne reflètent pas la réalité des choses.
D'accord. Et donc on peut pas comparer une meute de loup. Enfin, vous savez, on dit toujours le chien, c'est sa meute, c'est sa famille, c'est la famille où il vit. Alors on peut pas comparer la meute de loup avec la famille meute.
Alors la meute de loups, déjà, donc une fois qu'on s'est mis à les étudier, non pas en milieu clos où alors c'était des groupes artificiels, c'est-à-dire qu'on a pris des loups d'un petit peu partout, oui, de différents zoos, etc. On les a mis ensemble, enfermés, on a regardé ce qui se passait quand on mettait de la nourriture. Effectivement,
mais c'était pas eux qui s'étaient réunis naturellement.
Pas du tout. D'accord. C'était complètement artificiel et du coup, il y avait de la bagarre.
Oui, donc les résultats
tout le
sont
temps.
Faussés, j'imagine.
Il y avait de l'agression tout le temps. Et donc, on a, en étudiant ça, on a mis en place ce modèle en disant c'est une hiérarchie dominant subordonnée où le plus fort se bat le plus et a le plus accès aux ressources, à la nourriture, à la sexualité. Et on a transposé ça.
Dans la famille.
Qui n'existe pas dans la nature, on l'a transposé à nos chiens et on a transposé les mêmes règles en disant que le plus fort devait gagner. Alors que maintenant les études qu'on fait sur le loup, mais je vais pas m'étendre là-dessus, on les étudie dans leur cercle naturel, c'est-à-dire qu'on ne constitue pas un groupe. Et en général, c'est un groupe à base familiale. Il est dans la nature. Quand il y a une augmentation du niveau de conflit, mais très, 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 très rarement des vraies agressions et des bagarres, les individus se dispersent. Ils s'en vont. D'accord. Et ils vont former un autre groupe où ils restent solitaires. Mais les agressions sont extrêmement rares dans un groupe de loups en milieu naturel.
Il y a toujours un chef de meute dans ce cas précis.
Il y a toujours un chef de meute qui fait figure d'autorité, mais le vrai autoritaire et le vrai dominant si tenté, peu importe la terminologie, il n'a pas besoin d'agresser.
D'accord.
Mais alors, quand on est avec son chien, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a une hiérarchie, une dominance ? Est-ce que le maître doit dominer son chien ?
Alors, pour répondre simplement à votre question, non. Pour être très très clair. Alors, déjà, il n'y a pas de hiérarchie dominante subordonnée entre deux espèces différentes. Ça, c'est un non-sens. Okay ? Après, de manière plus pragmatique et sans rentrer dans la terminologie, c'est justement cette vision du chien dominant, agressif, etc. C'est l'amalgame entre chien dominant et chien agressif, alors que dans la nature, c'est l'inverse. Le chien dominant, il a justement pas besoin d'agresser.
Et oui.
Le chien agressif, la plupart du temps, dans nos familles, c'est le chien qui a peur. C'est l'inverse du chien dominant.
Et oui.
80% des animaux qu'on voit pour des motifs d'agression, 80%, il y a au moins une composante qui est liée à de la peur.
Oui, parce que souvent, ce que disent les personnes, c'est « mon chien m'a agressé, oh, ça veut dire qu'il veut être le dominant à la maison ».
Voilà. Alors, ça, pareil, c'est un raccourci. L'agression, c'est de la communication. Donc, faut pas confondre les choses. On va oublier dominant pour le moment. Ok, et on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est l'agression. L'agression, c'est communiquer quelque chose. Nous, humains, on s'agresse tous les jours. Alors, pas en se battant, mais par un regard, par une parole qui peut monter un petit peu plus haut, par exemple. C'est de la communication verbale. Et agresser, c'est mettre à distance, tout simplement. Ça va pas chercher plus loin. Le côté...
Mais c'est vrai, des fois, Laetitia me crie dessus, donc moi, je fais attention, je comprends.
Et donc, en tenant compte de ces signaux, vous vous écartez un petit peu, et elle arrête d'agresser, c'est fini. Vous
Après,
avez tenu compte de ces signaux. Et vous vous êtes pas dit, Laetitia est méchante ou dominante.
Ah non.
Enfin, ça, j'en sais rien.
Non.
Vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui lui pose un problème.
C'est vrai.
Donc, vous vous écartez, vous essayez de savoir quel est le problème, et ensuite c'est résolu. Cette fois avec nos animaux, alors faut éviter de comparer homme et animal,
bien sûr,
mais en termes de communication, dans 90% des cas, si on essaie de comprendre pourquoi il y a eu une agression, plutôt que de dire « ah bah, il m'agresse, donc il est méchant, donc il est dominant, donc il faut que je le corrige, que je prenne le dessus », quand vous allez le corriger et prendre le dessus,
il y aura une escalade.
Vous allez rentrer dans l'escalade de l'agression.
Messieurs, dames, on revient dans un instant. Et on aura entre autres Eric.
Oui.
Alors Eric qui a besoin de votre aide, je pense, Antoine, puisqu'il a sa chienne Jack Russell qui est agressive quand elle voit de gros chiens.
Ah,
et
bah, voilà.
J'imagine un peu la pagaille que ça doit être dans la rue.
On va parler justement des chiens qu'on dit dominants sur les autres chiens.
Voilà. 3216, animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler pour témoigner et poser vos questions. A tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux.
Dans la vie, il y a les dominés
et les dominos.
Monsieur, attention, mon pitbull a cassé sa laisse, attention. Oui, oui, courez, c'est mieux, courez.
Les dominants, les dominés, tu baisses pas les yeux, s'il te plaît, t'arrives pas à laisser en chien.
Ah, non, je le rappelle pas, moi aussi j'ai peur.
François Sorel, Laetitia Barlera.
7h19, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux, on parle d'éducation canine. Ce matin, comment ça se passe avec votre chien ? Racontez-nous, dites-nous, tiens. 3216, animaux@rmc.fr. En compagnie de Laetitia et de notre invité, nous évoquons ce matin donc l'éducation canine et nous avons Eric. Laetitia qui est avec nous au 3216. Bonjour Eric.
Bonjour
Eric.
Bienvenue Eric.
Moi, ma chienne, je vous assure, elle se prend vraiment pour Rambo. J'ai l'impression d'avoir Rambo.
Rambo
vie, j'ai tout fait péter. Enfin, c'est, ah oui. C'est hallucinant.
En plus, votre chienne, elle ne fait pas 60 kilos.
Oh non, elle fait 10 kilos. À tout, même pas, attendez.
Oh non, Jacques Rousseau, elle ne fait pas 10 kilos. Sinon, elle est obèse. Hein.
C'est 6 kilos qu'elle fait, pardon.
D'accord. Donc, racontez-nous un peu.
Alors, le problème, c'est que dès qu'elle voit un gros chien, elle est sur la défensive, elle agresse, alors je suis obligée de me fâcher, d'attirer, arrête tes conneries, mais vraiment, c'est incroyable, quoi.
Et quand vous la sortez dehors, elle est en laisse ou pas?
Oui, c'est quand elle est en laisse.
Et donc, elle est en laisse, elle voit un chien à l'horizon, elle grogne, elle tire sur la laisse, elle veut l'agresser.
Voilà, c'est ça, c'est exactement comme Rambo, je veux dire, elle me fonce, quoi.
Alors, Eric, on a avec nous le docteur Antoine Bouvresse, qui est vétérinaire comportementaliste, hein, qui va nous aider. Hein, allez, je passe le bébé à Antoine.
Bonjour, Eric.
Bonjour.
Dites-moi, votre petite chienne, depuis quel âge est-ce qu'elle fait ses comportements agressifs, donc où qu'elle râle sur les gros chiens?
Elle a toujours plus ou moins fait. Hein.
D'accord. Et donc, vous avez dit qu'elle avait quel âge, cette petite chienne?
Elle a 10 ans.
10 ans. Ah oui, ça fait 10 ans qu'elle agresse les chiens.
Ah oui, bon courage Eric, ça doit être sympa, tiens.
Et avec les petits chiens, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des chiens avec lesquels elle a des relations affines, qu'elle connaît?
Ah oui, pas de problème. Alors, c'est drôle parce que je me dis, putain, mais t'es raciste ou quoi? Parce que, alors, ce qu'elle adore, elle est, je lui dis, putain, mais elle a des goûts de luxe, la chienne, parce qu'elle adore les lévriers. Alors là, les lévriers avant, ça se passe très bien.
Oh oui, ils sont tellement beaux.
Alors, des pratiques n'ont rien, mais alors les autres...
C'est-à-dire, tous les lévriers afghans, même ceux qu'elle ne connaît pas, qu'elle croise pour la première fois...
Elle n'a rien à leur dire, pratiquement. Souvent, elle ne leur dit rien.
Ah, ok. Alors,
Expliquez-nous, parce que souvent... Bon, Eric, peut-être, vous ne l'avez pas dit, mais souvent, moi, on me dit... mon chien, il est dominant, donc coup, dans la rue, il est dominant par rapport aux autres chiens, c'est un enfer. Alors, souvent, c'est des chiens mâles, d'ailleurs, c'est même pas des chiennes.
Alors, le problème ou la grande force de la théorie du chien dominant, c'est que ça permet de répondre à toutes les problématiques par une seule, un seul diagnostic entre guillemets et toujours les mêmes solutions.
Parce que souvent j'entends dire, oh ben, moi mon chien depuis tout petit il est dominant. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est un fait,
c'est l'étiquette dominant. Alors voilà, s'il fait pipi à la maison c'est parce qu'il est dominant, s'il grogne sur les autres chiens c'est parce qu'il est dominant, s'il mord c'est parce qu'il est dominant, s'il fait ses besoins à la maison, tout peut être expliqué par ça, donc c'est un fourre-tout assez incroyable. Si on regarde la réalité des choses de manière factuelle, votre petite chienne, sur certains chiens quand elle est dans la rue, depuis toujours elle essaye, et vous l'avez dit, elle est tétanisée de peur, c'est ça?
Je pense que c'est plus de peur en fait.
Et alors, il faudrait l'observer dans la rue, mais je suis presque certain, effectivement, qu'il y a une forte probabilité pour qu'elle ait la trouille de ses grands chiens, parce que peut-être que votre petite chienne, quand elle était toute petite, elle n'a pas été assez mise en contact en liberté avec des chiens qui savaient se comporter correctement. C'est ce que l'on appelle la socialisation, et c'est quelque chose qui se travaille chez les chiens à partir de l'âge de 2 mois et ensuite jusqu'à...
Mais Antoine, c'est trop tard pour le Jack d'Eric?
Alors, pour la socialisation, c'est-à-dire lui apprendre à communiquer correctement, ça on peut pas revenir en arrière si vous voulez. Elle a perdu
temps. Voilà, elle a plus de langage normal avec un autre chien.
En revanche, avec un éducateur canin, mais un bon, pardonnez-moi, il faut être très clair, on peut lui réapprendre à appréhender les grands chiens d'une autre manière. On travaille sur des principes de conditionnement, c'est-à-dire que c'est comme Pavlov, vous savez, la gamelle, la petite clochette, et quand on sonne la clochette, le chien se met à saliver même quand il n'y a pas la gamelle. Et ben, on peut mettre en place des conditionnements de type pavlovien, avec des récompenses, pour associer la présence d'un gros chien à quelque chose de positif. Mmh. Et avec, alors
ça peut être une friandise, ça peut être quelque chose comme ça.
Ça peut être un câlin, ça peut être le joujou, c'est-à-dire que si tu restes assis et calme alors qu'il y a un chien qui est à 20 mètres,
voilà, tu
vas
auras une récompense.
Ton joujou.
Voilà.
Tu vas avoir ton joujou. Et ensuite 20 mètres, 19 mètres, 18 mètres, on va se rapprocher progressivement pour désensibiliser. Mais
c'est du travail, hein, ça.
Alors ça demande beaucoup de travail, mais c'est faisable. Et une fois, alors après, il faut évaluer le chien. Je sais pas si pour le chien de Eric, on peut envisager ça, mais on peut aussi mettre ce petit chien en présence d'autres chiens qui ont des très très bonnes capacités sociales,
les
chiens des éducateurs qui ont l'habitude de se faire grogner dessus et qui bougent pas, et du coup la petite chienne,
et surtout enlever la laisse.
Voilà, on retire la laisse ou alors on met une longe pour pas qu'elle soit en contrainte, pour pas qu'elle soit entre guillemets en défensive. Mais il faut faire ça avec des pros, hein. Il s'agit pas de mettre la petite chienne dans le jardin du voisin avec un chien qu'on connaît pas. Ça doit être vraiment contrôlé. C'est un exercice d'expert pour savoir ce qui va se passer et maîtriser les choses. Et surtout, plus de punitions. Plus de punitions parce que plus vous allez punir votre chienne, vous lui dire arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça et tirer sur la laisse, plus vous allez entretenir sa peur.
C'est ça. En plus, Laetitia, le Jack Russell, c'est quand même un sacré toutou, quoi. C'est un sacré caractère,
oui,
le Jack, hein.
Oui, Eric, c'est très bien que le Jack Russell, c'est un animal que j'adore, moi, parce qu'il est vraiment très tonique,
oui,
fort caractère. Mais là, comme on voit, voilà, elle a peur. Et c'est vrai que la peur, ben, souvent, on pense que c'est de la dominance, alors que non. Mais justement, quand un chien, quand votre chien grogne sur vous, voire vous mord.
Oui.
Quelle est la
alors commence à sortir les crocs.
Voilà, on voit que c'est une aberrance de dire bon bah il est dominant, il veut me dominer, il veut être le chef, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Quand un chien menace, surtout son chien.
Alors, il y a pas 36 solutions. Il faut analyser la séquence comportementale et analyser la séquence agressive. Qu'est-ce qui a déclenché? Alors, en général, il faut surtout demander qu'est-ce qui a déclenché cette agression, ce grognement. Mmh. Parce que le grognement, le fait de grogner, c'est le début d'un comportement agressif.
Mmh.
Qu'est-ce qui a commencé comme ça? Et qu'est-ce que ça a été la première fois et comment vous avez réagi? Et bien entendu, faut pas punir un comportement agressif. Quand un animal agresse, il vous explique quelque chose. Si vous n'en tenez pas compte, vous perdez des points, vous perdez du temps.
Faut pas répondre à l'agression par l'agression.
Voilà. Alors, après, pourquoi il grogne? Est-ce qu'il grogne parce qu'on est en train de lui faire mal? Est-ce qu'il grogne parce qu'il se sent pas sécurisé? Est-ce qu'il grogne pour défendre sa gamelle? Ça, c'est d'autres choses. Mais après, en tout cas, répondre par la punition ou par l'agression ou la correction physique à une agression, quoi qu'il arrive, dans tous les cas,
c'est nous les perdants.
C'est une mauvaise idée ça ne va faire qu'augmenter le risque d'agression suivante.
Ok. Antoine, merci. Laetitia, on revient dans un instant. On poursuit sur l'éducation canine jusqu'à 8h sur RMC. Nous avons eu Eric en témoignage qui avait des problèmes avec son Jack Russell et les gros chiens. Si vous avez aussi d'autres problèmes avec votre animal de compagnie, avec votre chien, ça se passe pas très bien, racontez-nous, dites-nous. 3216, on en parle tranquillement, librement, soit au 3216, soit vous nous envoyez un petit mail animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos Animaux sur RMC.
Laetitia Barlerin. Attention,
attention,
que vous êtes venu avec votre cheval, mais ça n'enlève rien à la particularité de la question flash. Vous devez maintenant répondre à la question de Louis qu'on a reçue sur la page Facebook en moins de 2 minutes. Vous êtes prête?
Je suis ready.
Alors on y va. J'ai une question toute bête, nous dit Louis.
Il n'y a jamais de questions bêtes.
Voilà, que les réponses parfois, et encore, jamais avec vous. Est-ce que nos chiens ont un groupe sanguin, la Tia?
Oui, et les chats aussi. Voilà.
Les chats aussi.
Merci Louis.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
Non, les chiens ont 8 groupes sanguins.
8
Oui, et le chat 3. Alors,
et nous?
Il y en a combien?
Je sais pas.
A, B, et O, et puis après il y a les rhésus.
D'accord.
Alors là, c'est pas pareil, hein. Donc, le chien a l'avantage sur nous, c'est qu'il peut être transfusé la première fois, et non la seconde, hein, avec le sang d'un chien, quel que soit son groupe sanguin.
Un Jack pour recevoir le sang d'un labrador.
En urgence, voilà, vous avez, voilà. Mais on peut quand même vérifier, enfin, on a des tests, nous, vétérinaires, pour vérifier la compatibilité entre deux sangs. Mais c'est vrai que la première transfusion.
Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci.
C'est dingue, ça.
C'est, celle d'après. Mais alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux savoir si on a des sangs compatibles ou pas. Alors que
chez le chat, en urgence, vous pouvez prendre.
Voilà. D'accord. Chez le chat, c'est différent. Il faut vraiment faire un test rapide pour voir si les deux chats sont compatibles. Alors, juste une chose, puisqu'on parle de groupe sanguin, les vétérinaires ont besoin de donneurs. Il n'existe pas de banque de sang pour les chiens ou pour les chats. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous dites, si vous avez surtout les gros chiens, on prend pas sur les chihuahuas, mais sur les gros chiens, vous pouvez être donneur potentiel et le signaler à votre vétérinaire. Il faut que votre chien soit bien vermifugé, vacciné, etc. Qu'il soit pas trop jeune ni trop vieux. Et vous pouvez donner un chien peut donner jusqu'à 250 ml de sang.
D'accord.
Maximum 4 fois par an, et c'est bien d'être donneur.
RMC, c'est au 32-16.
34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Moins 25, c'est RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Un excellent dimanche avec nous. Vous le savez, le dimanche matin sur RMC, c'est le week-end des experts, tout comme le samedi d'ailleurs. Alors le samedi, vous avez rendez-vous avec notre expert jardin, suivi de notre expert maison. Tout à l'heure, ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile à partir de 8h. Mais vous le savez, dans l'immédiat, c'est les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Laetitia, on parle d'éducation canine ce matin avec notre invité Antoine Mouvresse, et puis nous aurons aussi Catherine Collignon et vos questions, vos témoignages sur justement la manière dont ça se passe avec votre chien. Est-ce que c'est un peu compliqué? Bah dites-le nous, on va essayer de vous aider, tiens.
Voilà, exactement. Donc nous sommes toujours avec le docteur Antoine Mouvresse. Antoine, j'aimerais vraiment vous poser une question qu'on me pose très souvent. Quelle est la place que la place sociale, on va dire, du chien dans la famille, et quelle est la place du maître par rapport à son chien? Parce qu'on vient de dire que les notions de dominance, ben, c'est dépassé. Alors, c'est quoi sa place? Est-ce que la plupart des... Quand on a posé la question, comment définiriez-vous la relation que vous avez avec votre chien, spontanément, ben, la plupart des propriétaires de chiens disent complice. On est complice, pas forcément la relation paternelle, maternelle, ni la relation dominance, mais complice.
Alors... Oui, bah la complicité, très clairement. Alors d'un point de vue entre guillemets scientifique, donc comme il peut pas y avoir de hiérarchie sociale entre deux espèces différentes, bah, les scientifiques ils veulent quand même un modèle, ils veulent quelque chose.
Bah oui, c'est un chien n'est pas un chat.
Voilà. Et en fait, ce qui est en train de se dessiner a priori, parce que pareil, hein, tout ce qu'on dit c'est à l'appui de nombreuses études, c'est que en fait le relationnel qui se crée entre le chien et l'humain. Alors le chien c'est le premier animal qui a été domestiqué. D'accord, le tout premier avant les troupeaux, etc. Donc il y a une complicité qui est ancestrale, qui à la base était liée à l'utilité du chien pour gérer les déchets des campements primitifs, ensuite pour chasser, ensuite pour plein d'autres choses. Oui. Maintenant que le chien est rentré dans la famille, très clairement, sa fonction, c'est une fonction d'animal familier. Donc en fait, c'est la somme des interactions qui va définir le relationnel qu'on va avoir entre... l'animal et le chien.
Mais est-ce qu'il faut être le leader du chien?
Alors, c'est pas une histoire. Alors, le problème, leader, c'est de la terminologie, mais quand on est sur de la terminologie leader, il faut pas que ce soit une manière détournée de dire qu'on est le super dominant, le big boss qui décide de tout. C'est la différence entre d'avoir de l'autorité, et ça, il faut en avoir avec les animaux, et l'autoritarisme,
D'accord. Qui
est d'imposer tout, n'importe quoi, et des règles qui n'ont pas de sens de manière incohérente. Si vous voulez une relation de confiance avec votre chien, il faut que vous choisissiez des règles.
Mais donc c'est ce
comme
qu'on
dans,
appelle
comme
l'éducation.
Dans n'importe quelle famille, et que vous vous y teniez. Et il faut que ces règles soient cohérentes, et que tous les jours, non au canapé, c'est non au canapé. Et que manger avant, pendant, après, on s'en fiche. C'est vous qui fixez la règle et vous apprenez à votre chien à la respecter. Et si vous êtes cohérent, il y aura jamais aucun problème. Moi, mes chiens, ils montent sur le lit le matin pour me faire des câlins. Ils mangent parfois les restes de table avant, pendant ou après. Il y a aucun problème parce que ils savent que à ce moment-là, ils ont le droit de le faire. Par contre, quand je suis en train de travailler, il y en a aucun qui va venir me demander demander des câlins parce que moi, j'ai décidé, c'est pas parce que je suis le dominant, parce que j'aime pas qu'on m'enquiquine quand je suis en train de travailler. J'ai décidé, c'est ma règle à moi, qu'on venait pas m'embêter, je leur ai expliqué, je leur ai appris, ils le font plus et c'est fini.
Vous en avez combien de chiens, Antoine?
Officiellement 3.
Officiellement 3. Et donc, il y a des jours où il y en a plus, c'est ça?
Il y a des jours où il y en a un petit peu plus, il y a un chat, il y a un perroquet, c'est joyeux.
Ouais. D'accord. Okay.
Mais c'est marrant parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'on parle d'éducation d'enfants.
Oui, bien sûr.
Où c'est pas, faut pas être, voilà, l'autoritarisme, justement, mais seulement fixer des règles.
Une fois qu'on sort des schémas préconçus, on se rend compte que ce qui reste, c'est les théories des apprentissages. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que c'est qu'une récompense? Qu'est-ce que c'est qu'une punition? Et quand est-ce qu'une punition doit avoir lieu et comment? Ça veut pas dire zéro punition, ça veut dire la bonne punition au bon endroit au bon moment.
Laurence est avec nous, Antoine et Laetitia. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous les trois et merci pour cet apport comportemental qui est vraiment, vraiment aidant et excellent.
Merci.
Merci Laurence.
Merci Laurence.
Alors j'ai eu une première chienne guide donc que j'ai gardée jusqu'au bout. Ma première chienne, je l'ai eue en 2000 et c'était une flat coat et maintenant j'ai un labrador fleur. Donc il y a 5 ans et je vois vraiment la différence d'éducation en fait entre les deux périodes puisqu'on nous apprenait effectivement lors de ma première remise à être dominant. Moi j'ai jamais été une grosse dominante donc je pense que ma chienne a été heureuse et elle a fourni un bon travail. Et quand elle était en retraite, je l'ai gardée et ben j'avais plus cette dominance à avoir un peu qui me gênait quand même.
Oui.
Et donc je me suis dit oh pour ma prochaine chienne, je veux un autre
une autre relation
et avec le jeune éducateur qui m'a remis fleur. Déjà, on avait beaucoup plus d'informations quant au chien, hein, puisqu'il partageait ses mémoires avec nous et ceux d'autres éducateurs. Vraiment, c'est vraiment aidant. Et là, j'ai mis en place, en fait, la récompense et que je faisais pas du tout avant.
Oui.
Et moi, je pense que je suis davantage cadrante. Plutôt,
oui.
J'aime moins leader, mais bon, c'est le terme approprié, plutôt cadrante avec mon chien pour qu'elle soit en sécurité et que je le sois également. Je lui demande une activité. Et effectivement, je suis beaucoup plus complice puisqu'elle a une éducation. Et oui, je peux dire que quelquefois, eh bien oui, ma chienne vient sur mon lit parce que je lui demande. Et voilà, et après, je lui redemande de descendre. Elle sait que normalement, elle n'a pas le droit, mais qu'exceptionnellement, effectivement, on peut avoir de super relations. Et le guidage s'en ressent puisque nous avons une confiance mutuelle. Donc merci les éducateurs d'avoir mis ceci en place. Ça correspond plus à mon éthique de vie.
Vous voyez, même les éducateurs de chiens guides d'aveugles sont passés à cette méthode dite positive. Alors justement,
Laurence a une relation fusionnelle avec son chien, hein, puisque bon, vous êtes malvoyante.
Et Fleur, on en parle
donc,
très souvent, hein, Laurence. C'est très gentil de nous avoir appelé et d'apporter comme ça votre témoignage. Et surtout ce témoignage entre l'ancienne éducation et la nouvelle, justement. Alors justement, nous sommes avec Catherine Collignon, qui est éducatrice comportementaliste, adepte d'une éducation, bien sûr. Positive, hein, ce qu'on appelle positive, et fondatrice d'Animalin, c'est l'école française du clicker training. On va aussi en parler avec Catherine. Catherine, bonjour, bienvenue.
Bonjour à tous, bonjour Antoine.
Bonjour Catherine.
Alors, justement, quel est le principe de cette éducation nouvelle? Enfin, on dit nouvelle, mais bon, je pense que pour vous, c'est pas nouveau. Cette éducation positive, est-ce que vous bannissez les punitions?
Alors, donc il y a deux questions. Donc le principe de l'éducation positive, c'est de prendre en considération l'animal comme dans sa personnalité, donc en considérant ses émotions, son caractère, et de chercher à motiver l'animal à produire un comportement. Donc on va utiliser la récompense pour lui donner envie, pour le motiver et lui donner envie. Alors donc du coup l'idée c'est de le rendre coopératif dans son apprentissage.
Donc est-ce je te donne un ordre, tu dois écouter mon ordre, c'est je te donne l'envie de faire quelque chose.
Voilà, je te donne l'envie de faire quelque chose, l'animal va produire un comportement pour obtenir une récompense. Une récompense, ça peut être une récompense sociale, c'est un retour de l'environnement qui est satisfaisant pour le chien. Et ensuite, on va y ajouter des repères, ça peut être des repères verbaux ou des repères gestuels, ce qu'on va communément appeler ordre. Ensuite, est-ce qu'on bannit ou pas les punitions? En fait, c'est pas tellement ces termes, parce que quand on parle punition, les gens pensent faire mal à l'animal ou
punition
etc.,
physique
ou crier dessus. En fait, il y a différentes façons de punir. Déjà, l'idée, c'est de punir un comportement et de ne pas punir l'individu. Bien souvent, quand on utilise des punition, on va dire, coercitive, en faisant mal, il faut se rendre compte qu'on punit l'individu. Donc c'est extrêmement anxiogène et c'est voilà, ça
c'est contre-productif aussi.
C'est contre-productif à tous les niveaux. Donc c'est, du coup, on peut avoir des comportements tels que l'agression, parce que en fait, il faut s'en sortir. Quand on est puni dans son intégrité, on doit s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Donc nous, on va essayer, en tout cas, de se fixer dans l'idée qu'on doit punir un comportement, et on peut punir de différentes façons. On peut retirer quelque chose que l'animal aime, et lui enlever ce qu'il cherche à obtenir à ce moment précis. Ça peut être un type de punition. Ensuite, on va jamais punir de façon autoritaire en phase d'apprentissage, puisqu'on considère que le chien, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc pourquoi on devrait le punir? On devrait le gronder, si on parle d'une punition plus désagréable, entre guillemets. Ensuite, quand on va utiliser éventuellement de l'autorité, ce qui peut arriver deux fois ou trois fois dans l'année, admettons, on va, dans l'idée, ça va être de stopper un comportement, parce que ça peut être une urgence, on doit stopper un comportement, et aussi on va toujours rester dans la communication avec le chien. C'est-à-dire que le chien a les capacités de pouvoir modifier notre comportement. C'est-à-dire que si par exemple je gronde mon chien, la façon dont il va lui répondre à cette autorité, on va nous y répondre également. C'est-à-dire que le chien doit avoir les capacités de nous faire descendre en tension, de nous faire descendre en pression. Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'on utilise des méthodes positives, on ne gronde jamais le chien, on renvoie jamais quelque chose de désagréable.
Si je dis à
mon chien, stop, arrête de faire ça, ça peut être désagréable, c'est pas permissif
non plus, cette éducation.
Absolument pas. Mais l'idée est quand même de toujours donner envie à l'autre de produire un comportement qui est satisfaisant pour lui et satisfaisant pour nous.
Alors pourquoi le fait de ne pas donner de limite au chien peut rendre le chien malheureux, c'est-à-dire une éducation complètement permissive?
En fait, c'est toujours pareil. Il est impossible de ne pas donner limite au chien. C'est impossible, ça n'existe pas. Il n'y a aucun foyer où ça existe. On ne peut pas laisser un individu être sans limite, puisqu'on vit en communauté. Donc, on doit donner des limites. Je pense que dans l'idée, ce qu'il faut plus, on doit s'arrêter plutôt sur la qualité des interactions. C'est comment j'apprends mon chien à ne pas faire ceci ou à faire cela. Et c'est sur la qualité des interactions qu'il faut s'arrêter. Pas sur le fait qu'on donne des limites ou pas à l'animal, puisqu'on devra en donner.
Catherine, merci beaucoup. Laetitia, on revient dans un instant, il est 7h46. On parle d'éducation canine, vous l'avez remarqué ce matin sur RMC, dans ce week-end des experts animaux. N'hésitez pas à témoigner, posez vos questions sur ce sujet. 3216animaux@rmc.fr, on est là dans quelques secondes, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le week-end des experts sur RMC, les animaux. On parle d'éducation canine ce matin, les nouvelles tendances avec notre invité, Antoine Bouvresse, qui est vétérinaire comportementaliste. Et Laetitia, nous avons Daniel qui est avec nous.
Et Catherine Collignon,
qui est toujours là aussi.
Éducatrice comportementaliste.
Et qui peut intervenir, évidemment, quand bon lui semble. Daniel, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Dan.
Bonjour.
On vous écoute, Daniel.
Voilà, j'ai déjà posé la question à Laetitia il n'y a pas très longtemps. Elle me disait de m'adresser à un vétérinaire comportementaliste, et là j'en profite.
Allez, alors, allons-y.
Et vous ne l'avez pas fait?
Je ne l'ai pas fait parce qu'il faut que je trouve la bonne personne.
Et ah, d'accord. Voilà.
Alors, on vous écoute. Allez-y, Daniel.
Alors, je lui avais dit, quelquefois, de temps en temps, je suis allongée sur le canapé à la maison, le soir. Et lorsque je me redresse, quelquefois, ma petite chienne, qui est âgée de 5 ans, m'agresse. Voilà. Elle vient vers moi, elle saute vers moi, elle me mordrait, voilà.
D'accord. Donc, elle vous menace et vous la sentez prête à vous mordre?
Oui. Mais si je me laissais faire, elle me mordrait.
Bon. Alors, Catherine.
Allez, c'est à vous de travailler.
Et après, ça sera Antoine.
Catherine.
C'est un peu complexe et oui, c'est relativement simple à répondre. Mais l'idée aussi de savoir, moi, ce que je regarderais, c'est l'ensemble des interactions dans le quotidien de cette chienne avec sa maîtresse. C'est-à-dire que là, ponctuellement, la chienne réagit dans une situation, mais il faut regarder l'ensemble, façon dont la maîtresse interagit avec la chienne. Par exemple, est-ce que vous usez manquez souvent d'autorité pour contrôler votre chienne? Comment, dans le quotidien, vous communiquez avec elle? Déjà, ma première question.
Alors, Daniel, est-ce qu'il y a d'autres... quels sont les autres moments où elle vous agresse?
Ou pas, d'ailleurs. Pour lui interdire quelque chose, par exemple, pour lui interdire une action ou quelque chose qu'elle considère comme bêtise à ses yeux, comment s'y prend-elle? Comment elle s'y prend, Daniel?
Avec moi, elle ne m'agresse pas trop, à part ce problème-là. Mais il y a eu des problèmes avec pendant les promenades, elle agressait des personnes. Lorsque je l'avais au départ, je la mettais pas en laisse et il y a des personnes sur lesquelles elle sautait. Pourquoi? Je sais pas. Alors là, j'en ai parlé, je lui ai fait faire de l'éducation canine un petit peu. Depuis, ça va mieux. Maintenant, elle passe son chemin, elle n'agresse plus les gens. Voilà. Et ça, c'était un gros problème dont j'ai résolu. Je pense que j'ai résolu le problème. Mais il reste voilà. Alors. J'ai appris à l'éducation canine à lui faire certains gestes, lui faire. Et depuis, bon, ça va mieux.
Catherine, vous vouliez dire quelque chose?
Alors, a priori, la chienne a des problèmes de peur avec les humains.
Oui.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut lui redonner confiance ou changer son regard sur les humains qu'elle rencontre. Donc ça, on peut utiliser, c'est faire des bonnes associations. Donc moi, j'utilise généralement des récompenses de très forte valeur, ce qui peut être du jambon, des petits morceaux de selvela. C'est-à-dire qu'il faut, il faut changer le regard de la chienne sur les humains. Donc la seule solution qu'on a, c'est que les humains lui offrent des cadeaux. En fait, et les cadeaux pour un chien, ça peut être des récompenses de forte valeur, jambon, cervelas, etc. La chienne va voir les humains différemment et va être beaucoup plus amicale envers eux puisqu'ils sont potentiellement, ils peuvent lui offrir des cadeaux. Ensuite, le premier humain avec lequel la chienne interagit, c'est sa maîtresse. Donc même si la chienne a l'habitude de vivre avec Daniel, il se peut que dans certaines situations, la chienne ait peur.
Et oui.
Et des situations qui lui font peur. Donc, quand Daniel est sur le canapé allongé, si la chienne, par exemple, arrive, se peut que la façon dont elle se relève ou la façon dont elle interagit avec la chienne à ce moment-là, il peut y avoir eu que quelques interactions qui sont négatives pour la chienne, fasse anticiper la chienne et la fasse réagir de façon agressive. Donc, il faut encore une fois modifier le regard de la chienne sur ses interactions avec son maître. Et ça peut être en dehors du canapé, ça peut être en dehors de la situation canapé, ce qui paraît quelquefois étonnant pour les maîtres, et de remettre en place une éducation beaucoup plus positive. Et ça modifierait le regard du chien sur sa maîtresse. Beaucoup de gens pensent, parce que le chien vit en permanence avec nous, qu'il n'a pas peur de nous. En fait, il se peut que le chien ait même des moments où il n'est pas très à l'aise dans certaines situations avec son maître. Et c'est toujours une histoire d'avoir peur des réactions de l'autre, d'avoir peur de ce qui peut m'arriver. Donc voilà, donc il faut changer ça. Donc moi, je lui conseille changer ses interactions et de modifier le regard du chien. Et ce n'est pas les ordres qui vont changer quelque chose.
Et de se faire aider par un vétérinaire comportementaliste ou un éducateur comportementaliste comme vous. Alors, Antoine, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à Daniel?
Je suis en total accord avec ce que dit Catherine à 100%. Je rajouterais juste une toute petite chose, c'est que votre petite chienne, Daniel, je pense qu'il faut qu'elle soit vue. Parce que, bien sûr, on en parle sans la voir. Je pense que pour objectiver concrètement ce que Catherine vous a dit, je pense qu'il faut que quelqu'un observe votre chienne. Parce que vous avez dit qu'elle avait pris des cours d'éducation et que du coup, elle faisait plus de bêtises quand elle croisait des gens. Ce qu'il faut regarder, c'est pas si elle fait plus de bêtises. C'est quels sont ses états émotionnels au moment où elle croise des gens. C'est-à-dire, si effectivement, elle reste assise sans aboyer, pour vous, c'est plus une bêtise. Mais si la chienne est terrorisée, en train de trembler, de se faire pipi dessus, je caricature bien entendu, c'est pas réussi. C'est-à-dire, on a imposé par des mauvaises méthodes inutatives,
mais
on n'a pas changé sa vision des choses. Et deuxième chose, il faut qu'elle soit vue par un vétérinaire pour être certain que cette chienne, elle voit correctement ce qui se passe et qu'elle entend correctement son environnement.
Oui, c'est peut-être un problème de déficience des sens.
Voilà, parce que
si elle est surprise, forcément, ça modifie ses capacités adaptatives et sa réactivité.
Antoine Bouvresse, merci beaucoup.
Merci beaucoup et merci à Catherine Collignon qui a bien voulu nous donner ses conseils, qui est éducatrice comportementaliste. Alors je tiens aussi à le dire qu'elle utilise le clicker training et on fera une émission dessus. Oui. Vous savez, c'est le clic qui permet d'éduquer les chiens. C'est nouveau, c'est aussi la nouvelle tendance.
Et ça marche chez Jean-Luc Moreau ou pas?
Ça peut marcher et elle vient de sortir aux éditions du Génie Canin. Apprendre à mon chien à marcher en laisse sans tirer. Et ça, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Apprendre à mon chien à marcher en laisse sans tirer aux éditions du Génie Canin. Je pense que voilà, vous allez avoir
Je pense que pour Jean-Luc, ça marchera pas. Alors, juste une précision, Laetitia. On va se quitter avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin.
Oui, et c'est un chien qui est...
Et c'est Cooper.
C'est Cooper.
Cooper est un Shih Tzu. Mais c'est un petit génie, ce Shih Tzu-là. Parce qu'en fait, il sait compter, il reconnaît les formes géométriques, et cette vidéo est hallucinante.
Les couleurs, oui, voilà.
Incroyable.
Il fait les jeux des bébés, vous savez, enfin des enfants.
Ouais, des petits-enfants, ouais.
Et il faut revoir cette vidéo.
C'est bluffant.
C'est bluffant, et ça veut dire aussi qu'on peut apprendre beaucoup de choses à son chien.
Exactement.
Avec beaucoup de patience.
Tout à fait. Laetitia, on sera là dimanche prochain, 6-8, bien sûr, vous le savez.
Merci à tous, je vous embrasse et bon dimanche.
Bon, Jean-Luc Moreau, ça va, à votre avis? Il a une bonne éducation? Qu'est-ce que vous en pensez, Laetitia?
Je sais pas, il paraît qu'il faut pas que je sois une dominante, donc je vais pas le dominer.
Oh zut.
J'ai pas dit dominatrice.
Ah bon, il vous mord pas quand vous êtes sur le canapé. Ça va? Bon, très bien.
Bon, pour se venger, nous on parlera d'alcool dans la deuxième heure.
Oui, ça je sais.
De l'eau ferragineuse, oui.
Enfin d'alcool, d'éthanol, de bioéthanol.
Vous savez que l'éthanol que vous mettez dans votre voiture, c'est le même que celui que vous avez bu ce matin avant de venir.
C'est vrai. Enfin, vu la voix que vous avez, à mon avis, vous avez bien chargé hier soir. Jean-Luc, on va arrêter là, parce que vous savez, à chaque fois, quand vous avez la voix du comme ça de Rambo, je sais qu'il y a eu un souci. On va en parler pendant les infos, la météo des infos, et on revient donc sur RMC avec un Jean-Luc Moreau un peu alcoolisé, mais c'est pas grave, à tout de suite.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.